la French Connection, épisode 30.
Bonjour tout le monde, bienvenue à la French Connection du mois de mars. Avec moi aujourd'hui et à la même table, je suis avec Nicolas. Salut Nick.
Salut.
Avec Vince.
Oh, Vince. Salut les boys.
Et Damien en Europe. Salut Damien.
Salut tout le monde.
Donc aujourd'hui, quelques nouvelles. Et on va commencer, comme à l'habitude, avec Vince, qui va nous parler de défibrillateur implantable.
Oui, écoutez, petite mise en contexte, les cyber-risques maintenant ont la main longue. Ça essaie de tout pénétrer, ça essaie de tout craquer. Et puis, il y a des firmes de professionnels qui commencent à s'intéresser à ce domaine. Je vous donne un exemple. Avant de parler de ma chronique, j'ai eu une belle présentation justement sur les tendances possibles, les 5 tendances possibles proposées par la firme Ernst & Young en matière de cyber-risques, cyber-menaces. Et puis, une de ces menaces serait qu'en 2018, il risquerait d'avoir une augmentation des essais de pénétration sur les appareils implantables dans le corps humain connectés, notamment qui communiquent avec Bluetooth. À ce sujet, j'ai une image ici. Je vous la faxerai, mais je vous la décrirai pas. Alors, je vous donne un exemple, un petit texte que j'ai trouvé bien intéressant. Je connais quelqu'un de mon entourage qui a justement un de ces appareils-là qui lui permet d'avoir une meilleure vie, en fait, plus de dignité, puis voilà. Alors, il y a beaucoup de risques de piratage présentement sur les défibrillateurs implantables connectés. Bon, c'est une traduction française, là. On parle de défibrillateurs, on sait de quoi on parle. Implantable, c'est dans le corps humain. Connecté, ça veut dire que de face avec un téléphone, avec une interface quelconque, on peut accéder à certains éléments de configuration. Bon, honnêtement, y a-t-il vraiment un risque sur les défibrillateurs? Pour avoir discuté brièvement avec une représentante de la firme Boston Scientific, sa première réponse a été non, s'il y a aucun cas connu. Bravo, elle a été très bien briefée, elle nous dira certainement pas oui, n'est-ce pas?
Ouais, puis rajoute au fait que les bugs sur les pacemakers et autres datent d'environ du blackout de 5-6 ans. Oui. Il n'y a rien de nouveau, là. Plus que ça même. J'ai assisté à une des premières, je pense que j'étais avec toi, Nick, en plus. Je veux dire, le gars avait reversé un truc, ça avait pris des heures, jusqu'à temps qu'il se rende compte que ça venait avec un CD-ROM qui avait le code dessus, fait qu'il a juste checké le code.
Ben, dans ces années-là, c'était plus des choses de les pompes automatiques pour les diabétiques.
Ouais,
l'insuline, mais c'est valide.
Mais la même année, il y avait eu les deux tâches. T'avais l'insuline, puis t'avais celle-là. Puis oui, c'était peut-être pas aussi connecté que les cellulaires dans le temps, mais c'était super vulnérable.
Ben oui, mais vous venez de le dire, le code était sur le CD-ROM. Le code de base a pas dû ben changer. Il a juste dû évoluer un peu, mais il doit avoir une base connue. Puis s'il est déjà divulgué, ben, il y a probablement des petits comiques qui s'apprêtent à créer justement ce qu'on appelle des assassinats à distance. Oui, je sais, le terme est tough, mais c'est présentement c'est un avertissement du Journal of the American College of Cardiology qui prend la chose très au sérieux justement pour que ces appareils-là, le firmware, le fonctionnement machine et de télécom soient renforcés. Écoutez, la personne que je connais très bien qui a ça, depuis que je la connais, ça fait depuis, attendez un petit peu, je crois 4 ou 5 ans qu'elle a l'appareil d'implanter. Et puis, je pense qu'en 4 ou 5 ans, et je suis allé avec elle, c'est l'automne passé, c'était pour son update de firmware, justement. Et puis, m'étant intéressé davantage à l'appareil, je voulais savoir...
C'est full cyber.
Non, mais c'est drôle de dire que tu mets un firmware nouveau dans une personne, là.
Non, mais écoutez, le modèle de connexion avec le portable, première des choses, vous souvenez-vous des anciens barbecues au charbon avec l'espèce d'élément en forme de cœur? Ben, c'est un appareil qu'on accroche dans le cou avec une bande Bluetooth collée. Puis ça prend une demi-heure de télécom puis d'handshake avant l'autorisation de pénétrer dans la configuration du système.
Puis un hacker, c'est sûrement 30 secondes, mais ouais.
Probablement. Alors, c'était une mise à jour complète puis un reboot de l'appareil dans le corps humain, effectivement. Tout ça a pris en tout et partout 2 heures sans perte de configuration. Alors, écoutez, je pense qu'on est rendu là. Notamment les pacemakers qui permettent justement de faire une surveillance du pouls pour défibriller on ne sait pas combien de fois par jour le cœur afin de maintenir la personne en vie. Alors, qu'est-ce qui empêcherait la commande d'un assassinat sur une personnalité connue, comme par exemple une garde rapprochée d'un gouvernement ou d'une personnalité?
Ouais, puis le risque reste vraiment plus d'être à ce niveau-là, là, d'être state sponsor. Je pense pas qu'il y ait des script kiddies qui se promènent dans la rue à tuer du monde. Il faut quand même que tu sois assez proche de la personne généralement, puis c'est pas le genre de choses que le monde va faire à courir partout pour trouver ça, les traquer, les trouver, etc. Mais quand tu dis justement tuer quelqu'un à distance, c'est le même concept que Renderman avec ses objets sexuels. Faire un viol à distance, c'est poche, mais on est rendu là pour vrai. Mmh. Ouais.
Écoute, dans ta dernière phrase, tu as mentionné un élément extrêmement important, la distance, la proximité à laquelle il faut être de la personne pour accéder à l'appareil. Présentement, ben écoutez, c'est bien ce qu'ils ont fait. La distance maximale, c'est la distance de bras du porteur de l'appareil. Dès qu'on dépasse cette distance-là, la télécommunication, il n'y en a pas.
Ouais, il y a quand même des antennes, mais effectivement, ça réduit le risque énorme.
Ouais, ça réduit, mais ça ne l'empêche pas.
Exact, en plein ça.
Alors, écoutez, c'est parmi une des premières grandes cybermenaces identifiées par la firme Ernst & Young. Si ça vous intéresse, je vais essayer de récupérer justement la présentation. Et puis, on la rendra disponible. C'est relativement intelligent puis bien fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est entre nous, c'est rien de nouveau. On se doutait que ça allait arriver de toute façon.
Excellent. Prochaine nouvelle, Damien. Il y a une boutique du Black Market, une autre, qui vend de 500 000 Français.
Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, le Black Market, on le sait, il y en a partout. Alors, juste pour rappel, le Black Market, ça peut être sur le web, ça peut être dans le Darknet, ça peut être sur le Dark Web. Pour info, tout ce petit monde-là est totalement légal. C'est ce qui est fait par certains qui est illégal. Non, ça, il faut rappeler ça comme de temps en temps pour bien faire comprendre que, par exemple, utiliser Tor ou aller dans le Darknet pour pouvoir avoir une meilleure sécurité, par exemple, de conversation n'a rien d'illicite. Par contre, effectivement, le Black Market peut s'y cacher. Et c'est ce que j'ai découvert, là, il y a quelques jours, une boutique assez étonnante. On connaissait là où on peut acheter ou vendre des bases de données, de la drogue, des armes, etc. Sauf que cette boutique, hein, ce shop, vend plus de 550 000 Français. Alors, comment c'est possible? C'est simple, hein. Le gars propose d'abord plus de 140 boutiques, alors qui ont été, non pas infiltrées, en tout cas, pas toutes. Certaines, oui, ça c'est sûr, hein, parce que dans les lieux où j'ai pu le voir, le gars vendait, par exemple, des back-office, hein, ou des bases de données. 90%, je pense, en tout cas, de sa boutique à lui est tiré d'informations via des phishing, hein, via des filoutages, des hameçonnages de données. Et donc, en fait, il vend par ligne de log de Français, donc ça veut dire qu'il y en a plus de 550 000, et il propose d'abord à l'acheteur, ben voilà, j'ai telle boutique, telle personne, il y a des bonus, comme par exemple accéder à ses mails ou accéder à ses données bancaires, et il vous propose ça pour 4 euros, donc je sais plus trop combien ça fait en dollars canadiens, il faut compter, je pense, 4 dollars US, voilà, donc il y en a plus de 550 000. Alors, ce qui est intéressant, non pas pour cette boutique, non pas pour ces fuites de données qui sont revendues par des malveillants, non, c'est la réactivité de certaines entreprises qui, à la suite de l'article, ont commencé à alerter leurs clients en disant, voilà, nous, on n'a pas été piratés, mais on sait qu'il existe une boutique qui est en train de vendre peut-être vos données. Et ils ont donné quelques conseils, comme changer les mots de passe, comme changer éventuellement leur mail. En gros, les inciter à avoir un mail par service. Et là, je les ai trouvés particulièrement proactifs. Je trouve ça même plutôt intéressant. D'abord, cette proximité, hein, qui montre que ce ne sont pas que des vendeurs ou des robots, mais aussi des humains qui parlent à des humains. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, bah voilà, ce genre de boutique existe. Peut-être que nos clients se sont fait avoir par un phishing, par exemple. Eh bien, on va leur expliquer que ça serait bien de se mettre à jour, changer les mots de passe, éviter de mettre les mêmes mots de passe partout. Et puis, pourquoi pas créer une adresse mail dédiée uniquement à notre boutique. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu.
Fait qu'on retombe dans le même concept des mauvais mots de passe, de pas avoir de 2FA, et de tous ces concepts-là. C'est ça que tu veux dire?
Ah, ouais, clairement, parce que là, le mec qui a ouvert ce shop, hein, ce shop du Black Market, clairement, on voit qu'il a très certainement regroupé des informations, soit qu'il a piraté lui-même, soit qu'il a racheté, soit qu'il a utilisé sous forme de phishing, de scam et compagnie. Et on voit qu'il a, par exemple, testé des mots de passe, je sais pas, d'une boutique A, et il a testé pour voir si ça fonctionnait pas sur Yahoo, sur Gmail et compagnie. Et quand ça matchait, eh bien, du coup, il propose les données en plus, en bonus, comme il dit, et c'est vendu 4 € pièce, donc imaginez, ça fait plus de... S'il vendait tout, et à première vue, il en vend, parce que pas plus tard qu'hier, il avait déjà eu 1700 acheteurs, donc ça fait plus de $6000 en quelques heures, c'est malheureusement beaucoup d'argent avec les données des autres.
Ouais, on reste avec le même concept, mot de passe, réutilisation... C'est dommage, même dans le black market, on se retrouve avec ces bugs-là, puis avec l'utilisation de ces mots de passe-là. Mais c'est ça. Prochaine nouvelle, puis on revient un peu au concept des objets connectés que Vincent nous parlait avec Damien. 12 objets qu'on retrouve dans une maison connectée.
Ouais, c'est ça. Alors, ça a été une démonstration qui a été faite par un éditeur d'antivirus là lors du grand rendez-vous mobile qui vient de se terminer là il y a quelques jours. Et en fait, ils ont testé 12 objets connectés hein, comme l'Amazon Echo, D-Link, Netmento. Hein, c'est un petit boîtier pour la météo, Nokia Hills pour la santé, Sonos, etc., etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour ces 12 produits objets connectés qu'on peut avoir dans sa maison, moi j'en ai quelques-uns là. Eh bien, il y avait multitude de failles, mais de failles aussi bêtes que, par exemple, oublier de chiffrer les données entre, eh bien, par exemple, le boîtier et puis l'Internet. Hein, je prends l'exemple. Alors, ils citent même un D-Link où ils se sont rendus compte que les mises à jour du micro-logiciel, eh bien, elles se font au format HTTP, pas HTTPS. Hein, non, pourquoi, après tout, chiffrer et rendre sécurisé une mise à jour hein, donc, du coup, on pourrait éventuellement taper dedans. Le petit boîtier Netomto, là, qui permet la météo. Eh bien, dès qu'on installe, alors je l'ai, hein, moi, hein, c'est rigolo, ça donne la météo super précisément, mais si on ne fait pas attention, si on ne va pas dans son administration, on donne juste l'adresse où on habite. Hein, c'est clairement la situation géographique qui apparaît. Donc là, pareil, hein, côté anonymisation et en tout cas secret, c'est pas gagné, parce que d'autant plus que ces données-là, on se présume bien qu'elles sont ensuite partagées avec les partenaires. Donc voilà, donc il y a eu pas mal d'analyse de ces objets. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, pourtant, c'est pas faute d'en parler qu'il faut les sécuriser, chiffrer, protéger. Mm-hmm. Ben, on voit qu'encore une fois, hein, le design et le marketing prennent encore un petit peu trop le dessus par rapport à même la base de la sécurité.
Ouais, et puis tout ce qui est domotique, même les Nest et les choses à la Google et peu importe lesquelles, la plupart de ceux-là qui ont été analysés, le nombre de données qui retournent à la maison dès que tu lui donnes un accès à Internet est incroyable. Donc, je pense peu importe la compagnie, c'est intense. Puis ceux qui font du analytics par défaut à la Google, ben c'est juste fou. Là. J'ai vu une compagnie qui avait ça à l'intérieur pour utiliser la caméra des Nest. Et ils ont des... Ouais, la caméra est pas super bonne, mais c'était une solution de base pour débuter. Mais ils se sont rendus compte que ça exfiltrait beaucoup, beaucoup d'informations parce que c'est tout relié à Google. Donc, ils ont supprimé tous ces Nest-là.
C'est le client, le produit.
Ouais, ouais, exact. Même si tu payes la machine.
Le problème, il est là. Le problème, il est là, justement. C'est comment tu peux expliquer. Là, je prends, ils ont, dans les 12 produits, il y a la Wireline, hein. C'est une espèce d'objet connecté pour la radio. Comment on peut accepter de se dire que quand les gars ont mis les mains à la pâte, ont créé le code, ont créé le matériel, ils se sont dit, oh, bah, tiens, on va permettre la configuration de l'appareil pour se connecter au réseau Wi-Fi. Ah ben c'est pas grave, le mot de passe il sera en clair. C'est fou, rien que déjà ça, on se dit mais à quoi ils pensent ? C'est que j'ai du mal à comprendre de se dire que eux-mêmes vont utiliser le produit en se disant oh ben ma sécurité je m'en fous. Il y a un moment où on se dit mais ils ont bu, ils se droguent, c'est quoi le problème ?
C'est un panaché de tout. Mais c'est pour...
Ça, c'est une belle phrase! Ouais.
Hey, cheers!
Ah. Ah ouais, c'est un panaché de tout. Mais écoute, les gens ont l'air de dire... tu mentionnais l'équipe marketing. Je suis d'accord. C'est des gens très créatifs. Toutefois, il faut les accompagner en matière de sécurité. Mais au bout du compte, c'est une décision d'affaires. C'est de développer un produit. On veut qu'il soit le plus rentable possible. Donc, si le produit fonctionne, on peut faire une mise en marché très rapide puis récupérer les dollars pour rembourser tout ce qui est toutes les OPEX, puis atteindre un seuil de rentabilité très rapidement. Ultimement, c'est une décision d'affaires. Les patrons sont en arrière, j'ai l'impression aussi, du problème là, de mise en marché de ces appareils-là. Mais
Et il faut aussi... Ouais, mais il faut aussi éduquer le client parce que c'est bien beau d'avoir tous ces objets connectés. On voit le nombre d'entreprises. En plus, nos politiques aujourd'hui disent que c'est l'avenir, c'est de l'argent, c'est de l'emploi. Mais quand on voit le nombre d'objets connectés qu'on peut avoir dans une maison, Mais c'est fou le nombre de données qu'ils collectent, que ça soit notre style de vie, la santé, la navigation. Si on prend le Amazon, ce qu'on achète, il y a un moment aussi, je pense que on a beau être geek, je pense qu'on l'est tous, il y a un moment aussi, il faut se mettre dans la tête, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que surtout, si je le mets là dans mon bureau, dans mon salon, dans ma chambre, peu importe, est-ce que c'est pas fini pour ma vie privée?
Oui, je suis d'accord. Mais sais-tu quoi? Me semble qu'avec toutes les différentes campagnes qu'on voit à la télévision, dans les bureaux notamment, où il y a les fameuses campagnes de sensibilisation, je pense que le consommateur y est renseigné. Je pense plutôt que d'avoir ces appareils-là, puis d'en parler autour d'un bon souper entre amis, là, le fait d'avoir de l'air cool avec ces appareils-là, d'être techno, je pense que ça a préséance justement sur le degré d'implication de sécurité, bon
mais je peux pas plaider que l'utilisateur est nécessairement au courant parce que là on est dans un crowd qui est on est des geeks.
On s'intéresse
à ça. Je regarde juste dans mon entourage immédiat là. Tu sais, moi vraiment les gens qui sont pas geeks là, on prend donc nos blondes. Pas sûr moi qu'ils comprennent la portée de ce qu'ils font avec la technologie.
OK, fait que là on le fait pas écouter ce podcast là, c'est ce qu'on vient de comprendre là. Donc nos blondes c'est notre département marketing, c'est ça.
C'est le use case.
Le problème aussi, c'est le produit. Ouais, mais le problème avec tous ces produits, c'est qu'on est en train de nous les rendre tellement ludiques qu'on fait même plus attention à la sécurité. Je prends l'exemple de ce qui a été proposé pendant les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Il y avait par exemple des bonnets et des gants NFC, donc qui permettaient le paiement sans contact. Visa a sorti des autocollants sans contact qu'on pouvait mettre sur les skis. D'acheter le produit, un gant ou alors le bonnet, et puis tu mets une certaine somme d'argent, et puis t'allais payer, et puis c'était plutôt fun parce que tu le faisais avec ton gant. Le problème, c'est que on a complètement en train de transformer ça en supra-fun. C'est vrai que c'est rigolo de payer en mettant son gant sur le distributeur, et puis du coup, on a payé la boisson ou je ne sais trop quoi. Mais du coup, on est en train d'oublier qu'on nous a vendu pendant des siècles qu'une carte bancaire, ça s'utilise avec un mot de passe. Voilà, c'est tout ça est bien beau, tout ça est super technologique, ouais. Mais c'est en train de se retourner contre nous.
Mais en même temps, tu sais, si on parle du concept des personnes qui supposément connaissent ça, les risques et tout, oui, ils vont savoir que c'est... Il y a plein de pubs là, que ces machines-là, whatever, vont envoyer ça sur le web. Ils vont envoyer beaucoup de données à l'extérieur. Mais ils comprennent pas l'impact et les risques officiels. Et oui, ils comprennent ce qui se passe, mais pas pourquoi que c'est mal. Et c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu sur le privacy et tout ce qui touche à ça. Là.
Patrick vient d'amener un bon point. Alors, je vais nuancer mon précédent propos. Mm-hmm. Oui, les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés au travail, à télévision, les produits, les vendeurs, les cils et ça. Ce que les gens, là où les gens atteignent leur niveau d'incompétence, et je suis pas péjoratif, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est comment ces appareils-là peuvent être bavards. Puis là est le grand problème.
Ouais.
C'est pas marqué dans la notice. L'exfiltration de données.
Il y a même pas de. Je veux dire, la plupart de ces outils-là, ils ont un carnet miniature.
C'est même plus fondamental que ça. On prend tous les processus, tous les clubs de fidélisation, Hermès, Métro. En Europe, il doit y en avoir des similaires aussi. Tout ça, là, c'est sur la base qu'on est prêt d'avoir quelques mille pour s'envoler sur le fait qu'on vend toutes nos informations personnelles à un tiers. Mais tu fais ça, puis les gens sont. Immédiatement, on se garochait pour
le. Tout le monde va triper. Puis, j'ai été le premier à l'essayer quand j'ai commencé à voyager pour la job. Ah, je vais m'inscrire au truc de l'hôtel puis de l'avion. Puis après 5 ans, j'ai 75$ de récupérer sur genre 10 000 de dépenser. C'est inutile. Puis, ben, c'est ça. J'ai vendu mes infos.
Merci à J.E. aussi qui a fait un beau reportage là-dessus au Québec l'année passée. Et voilà.
Avant de passer à notre prochaine nouvelle, voyons et parlons de nos shameless plugs. Québec Sec, 22 mars, la dernière présentation de Franck qui va nous parler des ransomware et qui est généralement assez détaillée, qui va nous montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Extrêmement intéressant, mais cette fois-ci, démo incluse.
Yep. Oh yeah! En plus, je vais m'arranger pour que celle-ci soit filmée contrairement aux internationaux. Ceux qui n'auront pas la chance pourront le voir sur le web.
Awesome! On a aussi le 13 avril le CQSC, organisé par ici M. Nicolas.
Oui, c'est moi.
Bravo!
Ouais! 17 avril, Isaka qui va parler de la gestion des risques TI au sein des de la gestion des risques organisationnels. Et Damien, tu peux nous parler des activités en Europe?
Ouais, alors il y a deux grands rendez-vous en France qu'il faut noter sur vos agendas. Et si vous avez l'occasion de venir, eh bien dans la belle ville de Paris. En plus, vous êtes pas très loin de Lille, donc je pourrais éventuellement vous faire visiter un petit peu le coin. Mais toujours est-il que deux grands rendez-vous. Alors le premier, c'est du 25 au 29 juin. C'est une cybersécurité conférence. Alors c'est le Hack in Paris. C'est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes et aussi la liste des participants. Et quelques jours plus tard, même le lendemain, à partir du 30 juin, c'est la nuit du hack qui va se dérouler aussi à Paris, et là cette fois-ci et cette année, alors qu'avant c'était chez Disney, cette année ça sera à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui est un superbe espace dédié justement à la science, et ça sera la nuit du hack, donc là CTF, il y aura concours bien sûr comme d'habitude, hein, mais il y aura aussi des conférences. Moi j'y serai, où je serai habillé en prêtre, oui je sais, c'est bizarre, mais ça fait plusieurs années où je suis habillé en curé, où en fait j'ai le confessionnal où des gens qui ont fait des bêtises et qui souhaiteraient prévenir les entreprises qu'ils ont peut-être éventuellement fait un pentest sauvage et ils voudraient aider, eh bien du coup ils viennent me voir. Donc voilà, ce sont deux rendez-vous à ne pas rater et puis on en reparlera.
Fait que là, tu vas me confirmer que tu vas apporter cette initiative-là au Hackfest cette année?
Alors j'ai prévu cette année, mon enfant, de venir en prêtre pour venir parler à ces Québécois qui auraient pu faire des bêtises. Amen.
Excellent.
On fait pas de bêtises.
Personne fait des bêtises ici. Tout le monde est parfait.
Canadienne.
Ben non, c'est ça.
Puis si quelqu'un fait une bêtise, ben par défaut, ça a l'air qu'il est désolé. prochaine nouvelle de mon côté, elle n'est pas tant nouvelle que cela. Le Bell, compagnie de télécom au Canada, qui désire implanter un système pour bloquer le web, bloquer des sites web, et demande au gouvernement de créer un comité de censorship, donc pour censurer, et ce, sans overview, sans aucun regard de la cour. Donc là, il y a un gros mouvement présentement pour empêcher le tout. On va mettre le lien sur le site du podcast pour soumettre votre nom pour dénoncer le tout au gouvernement. Simplement, il y a déjà un texte d'écrit, vous pouvez ajouter le vôtre, le modifier ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est pas parce qu'on veut bloquer 2-3 sites de Bell, whatever, pour leur activité, que dans 10 ans, le tout va être switché en régime beaucoup plus chinois.
Ah oui, initiative de Bell? Il n'y a pas de CRTC en arrière de tout ça?
Demande au CRTC de...
OK, donc il demande à notre chien de garde en télécom...
De faire de la censure.
OK, donc c'est une initiative de Bell. Mon Dieu, de quoi ils ont peur, tu peux me dire?
Mais c'est pas tant une peur, je crois, mais plus un budget précis, facilement atteignable en faisant une initiative du genre. Surtout parce que tous les services web et autres qui viennent des États-Unis puis d'Europe viennent gruger leur revenu de ce qui est télévisé, de ce qui est radio... Ah, faut le dire, là, la plupart des compagnies au Canada sont pas à jour versus les Netflix de ce monde.
Mon Dieu, mais c'est
là. On est là.
C'est l'idée de la dernière chance. Ça fait pitié, mais en tout cas.
Ça fait pitié, mais c'est extrêmement dangereux d'aller dans ce sens-là.
C'est mal, la censure. On n'est pas un pays communiste. Là. Faut arrêter, là. C'est vraiment rétrograde.
Ouais, et puis là, c'est de la censure, justement, non communiste, demandée dans un régime capitaliste. C'est n'importe quoi.
Ben, c'est une méthode de contournement, c'est dommage. Il devrait prôner des bonnes pratiques avec une bonne utilisation, puis une mise à jour, puis être à l'avant-garde, puis être innovateur.
Eh ben, c'est les deux derniers mots, là. Avant-garde, innovateur. Si t'offres des services que personne veut, c'est pas la censure qui va t'aider, logiquement.
Ben, bon,
parce qu'il faut le dire, ça va se bypasser super facile. Puis même du côté du Hackfest, on va les sortir, les articles, si ça se rend jusque-là. On va les sortir, les VPN. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont les faire. Il n'y a rien qui va empêcher la censure d'arriver, mais légalement, si ça va là, on est dans le champ.
L'offre de service VPN, tu viens de le mentionner, qui est une belle méthode de contournement. L'offre est tellement alléchante puis est de plus en plus intéressante, qui compte de plus en plus d'adeptes, va devenir de moins en moins chère. Les gens vont finir par se dire, bon ben, la merde, Belle, je vais rester avec toi parce que ton service de base m'intéresse.
Puis je bypasse ta connexion.
Mais ça me dérange même pas de payer une couple de piastres de plus par mois, justement, pour bypasser ta mesure jurassique, on va dire.
Hein? Je relance à Damien parce que nous, on a un regard très nord-américain face à ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il y en a en Europe de ce genre de mesures-là ou de ce genre de réponse à ce genre de mesures-là?
Ben là, pour le moment, on n'a pas, nous, allez, on touche du singe et du bois, comme on dit, hein. On n'a pas encore ce genre de, allez, on va dire, de technique ou de méthode de s'accaparer le client, etc. Mais on y vient tout doucement. Je vais juste prendre un petit exemple un petit peu éloigné du sujet, mais ça montre aussi comment les entreprises aujourd'hui ont envie de s'accaparer le client, le téléspectateur, par exemple. Ici, en France, on a une chaîne de télévision qui s'appelle TF1, qui est la première chaîne européenne, en tout cas, comme elle l'annonce, de chaîne privée, hein, d'une chaîne de télévision privée. Et bien là, elle vient de demander à des opérateurs de télévision qui étaient partenaires avant, comme Orange, Free et Canal+, eh bien, elle leur a dit, vous nous payez parce que vous utilisez nos services qui sont gratuits, attention, hein, avec la télévision, vous nous payez, sinon, eh bien, on coupe tout. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques heures, quelques jours? Eh bien, Canal+, ne diffuse plus du tout les chaînes de TF1. Orange est en train de faire exactement pareil. Donc voilà, je pense que tous ces gens sont en train donc de s'accaparer leur petit business pour se les garder avec nous, avec eux. Et puis au milieu de tout ça, bah, tu as le client qui est devenu carrément, eh bien, l'outil de prise d'otage et qui lui, ben, bah, peut regarder et subir.
Ouais, mais essentiellement, ce que tu dis, c'est qu'on est en train de tout rediscuter la neutralité du net qui a été si décriée par les Américains, du moins, qui sont les premiers à vouloir aborder ce sujet-là, mais c'est absurde. Ultimement, le client perd dans tout ça juste pour des préoccupations commerciales de grandes corporations qui désirent empocher plus d'argent pour qu'ils ne soient pas capables de monétiser leurs services de d'autres façons.
Oui, mais attention, parce qu'intellectuellement, tu es en train de placer justement un communiste qui est en train de dire « Le pauvre client va payer, mais je sais très bien ce qui est bon pour lui. »
Ouais, ben,
Oublie pas le livre jaune numéro 5.
J'oublie pas le livre jaune, mais on tourne dans un concept où on est en train de nous dire comme citoyen, comme individu, non, vous savez pas quoi faire, donc on va, grande corporation, vous dire quoi faire, puis on va vous faire vivre, puis c'est comme
c'est
vraiment
pire.
Étrange.
Un, on vous dit pas quoi faire, on va vous l'imposer, donc voici comment vous allez faire prochainement.
C'est pire. Faut rien faire.
C'est pire, ouais.
Regardez Disney, Netflix. Disney était sur Netflix, on pouvait regarder les dessins animés, donc on achetait un seul service et ils se démerdaient entre eux. Maintenant, Disney a annoncé qu'il partait de Netflix pour créer son propre Netflix à lui. Donc du coup, moi, papa, je vais acheter deux services. Ça devient compliqué quand même,
leur
business.
Fait, c'est un beau modèle d'affaires pour créer de la compétition, créer des avantages, etc. Mais t'as raison, Damien. Ça commence même à 10$ par mois au final. On cherche à réduire la facture de télé puis télécom parce que c'est cher. Mais on va finir avec...
On va la prendre par service.
La meilleure idée de service, c'est le streaming comme ça. Mais à un moment donné, l'offre va tellement se multiplier pour trouver notre compte. Au final, ce que les compagnies veulent au Québec, c'est facile. Ils veulent 120$ par mois de nos poches.
Non, pas au Québec, dans le monde, ils veulent notre argent.
Bon, ils veulent au moins 120$, ben on va finir par continuer à payer 120$ pour les services de streaming qui sont une belle solution. Fait qu'encore là, Disney s'en va, dommage. Après ça, ça va être un autre studio.
Ouais, mais ici, pis ça, mais bon. Le bug des compagnies qui s'en va, par exemple, là, on switch un peu de sujet, mais c'est parce que si on parle juste de Netflix, ils ont décidé d'investir pour créer des films à l'interne. Donc, ils prennent moins de films externes de leur entreprise, ce qui fait que le service devient spécialisé Netflix et non un regroupement de films. Donc, c'est pour ça que les compagnies à côté se disent, bon, on va tout faire la même chose. Puis là, ben, c'est le consommateur qui ramasse la facture.
Ben, en tout cas, je vais le donner à Netflix. Présentement, la distribution Netflix est pas piquée des verres.
C'est awesome, puis oui. C'est tout relié au big data puis à l'analytics qu'ils font de leurs données, puis ils sont incroyables. Puis même si on parle sécurité, Netflix, l'équipe de sécurité là-bas, la manière que l'entreprise fonctionne, c'est fou raide. La plupart des services qu'ils développent à l'interne, c'est pas une compagnie de sécurité, là, mais ils développent des choses qui ont aucun sens. Fait qu'imagine du côté de Big Data comment ça marche. C'est le top. On a une dernière nouvelle qu'on ne fera pas aujourd'hui et qui va être incroyable. Donc, je vais juste mettre le suspense pour dans deux semaines. Vincent nous a contacté quelque chose qui n'a aucun sens, mais qui va être vraiment super.
Ah, ça fait plaisir, c'est bien. C'est bien vendu.
Une chanson ou juste l'air, je sais pas.
Non. Non. Écoute, là, Patrick vient de mettre de la pression, je vais être forcé de le faire.
Ah, t'es obligé.
Mais écoutez, j'ai du temps. Dernièrement, écoutez, j'ai un hamster stéroïdé entre les deux oreilles, donc il court vite. Mon focus est plein d'imagination. Alors voilà, j'ai effectivement préparé un petit quelque chose pour des nouvelles qui vont s'en venir. Puis écoute, Patrick, je voulais continuer juste un dernier petit élément sur. On parle de l'offre de service Netflix. Mm-hmm. Ceux qui nous écoutent présentement, vous avez vu les épisodes, la distribution d'épisodes Black Mirror.
Ah,
savez-vous
incroyable.
Quoi? Chaque épisode est une entité en soi.
Ouais.
C'est jusque où peut devenir pervers la technologie puis son utilisation puis les émotions des gens face à ça.
Puis le titre est parfait aussi. C'est un regard noir sur la société. Fait que si on s'auto-regarde dans le miroir côté noir. Sont parfaits, c'est juste fou.
C'est pas une promotion spécifique que Netflix veut me demander.
Mais c'est super geek en plus, parce qu'il y a énormément d'épisodes très, très dark technologiquement parlant. Puis même visuellement, ils ont fait des épisodes en noir et blanc et tout, c'est vraiment super.
Mais il faut me rattraper auprès de ma blonde, même les gens moins technologiques apprécient.
Oui, tout à fait. Donc, tu vois, ta blonde va faire écouter l'épisode. Et c'est ça, ça conclut les premiers épisodes du mois de mars. Merci tout le monde d'être là. Et on se revoit dans deux semaines. Merci messieurs. Bye.
Hola. Bisous.
Salut tout le monde. Dans deux semaines, le printemps est à nos portes. Ciao.